Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, mais tout pile à la seconde près. Et on vous accompagne. Très belle journée sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La campagne des municipales s'accélère à Paris et c'est sur RMC que ça se passe. Rachida Dati démissionne du gouvernement et sera l'invité d'RMC tout à l'heure à 8h30. On va vous expliquer dans ce journal les nouvelles règles pour utiliser son compte professionnel de formation. Ça change ce matin et on sera de retour dans les zones inondées de l'ouest de la France où des escrocs profitent de la décrue, vous verrez, pour arnaquer les sinistrés.
Dans moins d'une demi-heure, Rachida Dati sera mon invitée sur RMC.
Candidate de la droite pour les municipales, vous l'avez compris, à Paris, et qui a donc annoncé hier soir sa démission du gouvernement. Romain Cluzel, du service politique à RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. Elle était toujours ministre de la Culture et elle a vraiment attendu le tout dernier moment pour démissionner.
Exactement, Rachida Dati a poussé pour rester au ministère le plus longtemps possible, notamment pour régler la nomination du nouveau président du musée du Louvre. Ça a été officialisé hier. C'était le bon moment pour partir, se réjouit un proche de Rachida Dati, ravi que l'ex-ministre de la Culture ait pu fixer elle-même son départ. Désormais, elle peut se consacrer pleinement à la campagne municipale, Paris et l'engagement d'une vie, affirme Rachida Dati. Et elle est soutenue par Emmanuel Macron qui lui adresse tous ses encouragements. Le passage de Rachida Dati au ministère de la Culture pendant 2 ans est surtout marqué par des problèmes en cascade au musée du Louvre entre le cambriolage spectaculaire de l'automne dernier et les multiples grèves du personnel qui dénoncent la vétusté du bâtiment.
Elle démissionne, donc ça veut dire qu'il va y avoir un mini remaniement pour la remplacer.
Oui, Sébastien Lecornu a dû patienter pour que Rachida Dati quitte le gouvernement, mais cette fois-ci semble être la bonne. Le réajustement ministériel devrait avoir lieu aujourd'hui. En plus de Rachida Dati, la ministre chargée de l'autonomie, Charlotte Parmentier-Lecocq, va elle aussi partir. Ajoutée au départ d'Amélie de Montchalin pour la Cour des comptes, au total, ce sont 3 femmes qui sortent de l'équipe de Sébastien Lecornu. Et c'est une donnée à prendre en compte pour l'exécutif. Un proche d'Emmanuel Macron nous assure que la parité sera toujours respectée.
Alors pendant ce temps, le Premier ministre Sébastien Lecornu se félicite ce matin de l'accord qui a été trouvé hier entre les partenaires sociaux pour durcir les règles des ruptures conventionnelles. Alors en réalité, il n'y a que 2 syndicats qui ont donné leur feu vert pour réduire les durées d'indemnisation par l'assurance chômage. Il y a aussi les règles d'utilisation des comptes professionnels de formation qui changent et qui sont durcis à partir de ce matin. Ça y est, les décrets sont publiés, c'est pour faire des économies, conséquence du budget. Et donc désormais, Victor Girard pour RMC, pour utiliser son CPF, il y aura des plafonds.
Si vous êtes salarié, vous pouviez jusqu'ici utiliser l'intégralité de votre compte personnel de formation pour financer une formation, à condition bien sûr d'avoir un solde suffisant. Mais c'est terminé. Désormais, les montants sont plafonnés. 1500 euros pour les formations comme les langues étrangères, 1600 pour les bilans de compétences et 900 euros pour le permis de conduire. Même si votre solde est supérieur, impossible de dépasser ces plafonds, le reste est désormais à votre charge. D'ailleurs, le ticket d'entrée obligatoire pour accéder à une formation pourrait augmenter et atteindre 150 euros. Un décret est en discussion. Avec la réforme du CPF, le gouvernement espère économiser 250 millions d'euros, mais aussi modérer les pratiques de certains organismes, accusés de proposer des formations à des prix bien trop élevés.
C'est le mois prochain que le Sénat va examiner les textes de loi sur la fin de vie. La réforme sociétale du quinquennat a maintes fois repoussé, on en a beaucoup parlé sur RMC. Thomas Becker, du service politique, hier soir, donc les députés ont de nouveau adopté le texte créant un droit à l'aide à mourir en attendant de voir ce que vont faire les sénateurs.
Oui, le texte arrivera au Sénat en avril. Olivier Falorni, député à l'origine de la loi, s'adresse directement aux sénateurs.
Vous êtes souverain, vous voterez ce que vous voudrez. Mais l'Assemblée nationale, représentante des Françaises et des Français dans ce pays, a dit à 2 reprises, cette loi, nous la votons. Et nous la votons largement.
Hier, juste avant le vote, les députés ont tranché sur l'un des points crispants du texte. C'est bien le malade qui s'administre la substance létale, le médecin n'intervenant qu'en cas d'incapacité physique. Seule nouveauté, un délit d'incitation à l'aide à mourir puni 1 an de prison. Mais pour les opposants au texte, un peu plus nombreux d'ailleurs que l'an dernier, il y a toujours un point qui ne passe pas, rappelle le député et médecin Philippe Juvin, celui des délais.
C'est 2 à 17 jours. 2 à 17 jours. Le désir de mort, c'est un désir qui est fluctuant. Est-ce que vous connaissez personne qui a voulu mourir un jour et vivre 2 jours plus tard?
Ce texte qui part au Sénat reviendra une dernière fois à l'Assemblée avec cet engagement de la présidente Yael Braun-Pivet.
Moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce texte puisse être adopté avant l'été 2026.
Pour une 3e et dernière lecture qui ouvrira la voie, après 3 ans de débat, à une adoption définitive.
La parole continue de se libérer dans les écoles catholiques du sud-ouest de la France. Et on reparle ce matin de l'établissement Saint-Jeunesse-Lassalle de Bordeaux. On savait jusque-là qu'un ancien enseignant était accusé de viol et d'agression sexuelle par d'anciens élèves. Eh bien, on apprend ce matin, Romain Hogue, et vous allez nous détailler tout ça pour RMC, que de nouvelles accusations sont portées, cette fois à l'encontre d'un ancien responsable de l'école.
Oui, c'est un signalement à la justice qui date du 2 février dernier, fait par des enseignants et qui mentionne les comportements inappropriés de cet homme entre 2017 et 2024, alors qu'il était délégué de tutelle au sein du groupe scolaire Saint-Jeunesse-Lassalle à Bordeaux. Aujourd'hui directeur d'un autre établissement de cette communauté religieuse, cette fois à Agen. Il a été mis à pied à titre conservatoire, indique la congrégation qui parle de faits graves. Suite à ce signalement, une enquête pénale a été ouverte pour déterminer si les faits évoqués sont avérés. Une affaire de plus pour cet établissement bordelais, alors qu'un collectif d'anciens élèves de la congrégation dénonce des violences perpétrées entre 1950 et 1990. En décembre dernier, un ancien enseignant a été renvoyé devant la cour criminelle de Gironde pour le viol de 17 élèves et pour 6 agressions sexuelles commises notamment après 2017, époque où l'homme mis à pied à Agen était le délégué de tutelle du groupe scolaire.
Il est 8h06 sur RMC, on apprend à l'instant les mauvais chiffres du constructeur automobile Stellantis qui annonce une perte nette de 22,3 milliards d'euros pour l'année dernière 2025, deuxième plus importante perte jamais enregistrée par un groupe français en raison, nous dit-on, d'une charge exceptionnelle d'un peu plus de 25 milliards d'euros. Voilà donc l'information ce matin chez Stellantis. Une bonne nouvelle, tiens aussi à vous donner ce matin, et Géraldine en a parlé il y a quelques minutes, la décrue qui s'accélère un petit peu dans l'ouest de la France. Le niveau de la Loire a baissé d'une trentaine de centimètres en 24 heures à Angers, une quinzaine pour la Charente à Saintes. La Garonne, tiens aussi, a quasiment retrouvé son niveau habituel dans le secteur de Langon. Mais la gendarmerie sur place appelle à la vigilance car des escrocs profitent de la décrue pour embrouiller les sinistrés. C'est ce que nous explique Pierre Borges, le correspondant RMC dans la région.
Pendant plusieurs jours, le quartier de Damien était plongé dans le noir, mais une fois l'électricité revenue...
Il y a deux personnes qui ont accosté ma compagne en sortant de la maison.
Deux hommes qui se font passer pour Enedis et qui demandent au couple de régler l'intervention qui a permis de remettre l'électricité chez eux.
Il leur a dit, si on ne payait pas, qui coupait l'électricité carrément? On leur devait 159 €, prenez les chèques ou le liquide.
Le couple ne tombe pas dans le piège, ne paye pas et prévient la mairie de Villandreau qui réagit aussitôt. La commune a envoyé un message aux habitants, attention aux escrocs. Cette retraitée a redoublé de vigilance depuis.
Je suis très en colère. On profite du malheur des gens, quoi, et pour faire du fric, et c'est dramatique.
Et pour éviter ces arnaques, le capitaine de gendarmerie Michael Mounier donne quelques conseils.
Il faut qu'il s'assure que effectivement l'entreprise a bien envoyé un agent, donc ils peuvent recontacter cette entreprise directement. Il faut demander les cartes professionnelles. Et en cas de doute, il ne faut pas hésiter à appeler la gendarmerie et demander à ce qu'une patrouille puisse intervenir.
Et sachez que de telles opérations de démarchage doivent toujours être déclarées. Alors en cas de doute, un simple appel à la mairie peut aussi vous permettre d'éviter ce genre d'arnaque.
Le foot, c'est demain précisément que Paris va connaître son adversaire en huitième de finale de Ligue des Champions. Ce sera soit Chelsea, soit le Barça. Pour les Parisiens qui se sont qualifiés en huitième, alors dans la douleur, en barrage, le retour, la match nul de partout hier soir contre Monaco. Et alors un des moments de la soirée, c'est aussi cette banderole qui a été déployée et même un chant de soutien à Achraf Hakimi, le défenseur parisien renvoyé devant une cour criminelle pour le viol qu'il conteste d'une jeune femme, c'était en 2023. Le foot, c'est aussi le match qui nous attend en fin de journée, 18h45, et on vivra ça sur RMC. Lille, qui va devoir renverser l'étoile rouge de Belgrade. La tâche s'annonce difficile après la défaite 1-0 au match aller du barrage de Ligue Europa.
C'était le journal de Quentin Vinet. Tiens, d'ailleurs, sur le soutien à Achraf Hakimi que vous évoquiez à l'instant, je poserai la question à Rachida Dati. Donc, elle sera mon invitée dans 20 minutes sur RMC et BFM TV. Mais à 8h08, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, les pertes de pouvoir d'achat qu'on a subies après le Covid, c'est fini? Ça y est, elles sont effacées?
Exactement, c'est effacé. Alors on le sait parce qu'on a eu les statistiques hier publiées par la DARES, les statisticiens du ministère du Travail, sur l'état du marché du travail au quatrième trimestre. Donc la première nouvelle, c'est que les salaires ont augmenté au cours du dernier trimestre 2025. Alors, ils ont augmenté moins vite qu'en début d'année, mais comme la hausse des prix a ralenti plus vite encore que l'augmentation des salaires, le pouvoir d'achat de notre rémunération affiche quand même une augmentation de 1% par rapport à la fin 2024. Et grâce à cette augmentation, effectivement, on efface les pertes de pouvoir d'achat provoquées par l'envolée de l'inflation en 2022 et 2023. Prenez par exemple comme point d'étape janvier 2023. La hausse des prix atteint 10% par rapport au début 2021, alors que le pouvoir d'achat de notre feuille de paye n'a augmenté que de 5%. Donc là, début 2023, on est à 5% de perte de pouvoir d'achat. Début 2024, l'écart n'est plus que de 3%. Début 2025, 2%. Et là, ça y est, c'est fini. En gros, depuis début 2021, notre salaire net a progressé à peu près autant que l'inflation, soit environ 15%.
Bon, alors ça, c'est la bonne nouvelle. Vous m'avez annoncé qu'il y en aurait une mauvaise.
Oui, la moins bonne, c'est effectivement que la France a perdu des emplois en fin d'année, près de 30 000 au dernier trimestre, 40 000 sur l'ensemble de 2025. C'est une contraction, bon, qui est à peu près logique, hein, au vu du ralentissement de la croissance. Ça faisait 5 trimestres consécutifs que l'emploi diminuait dans l'industrie, 12 trimestres qu'il baissait dans la construction, secteur en grande difficulté, mais au moins jusqu'à l'automne, les embauches dans le secteur des services faisaient plus que compenser ces pertes d'emplois. Et bien malheureusement, ce n'est plus le cas. Les services ont aussi perdu des postes en fin d'année. Alors, l'emploi des seniors, lui, continue de progresser, mais c'est plus difficile pour les jeunes.
Les entreprises, le paradoxe, c'est que pour elles, c'est mieux. Elles ont moins de difficultés à embaucher.
Alors, effectivement, hein, vous savez que la problématique des difficultés de recrutement a été au cœur, finalement, du marché du travail depuis 5 ans. Là, effectivement, c'est un peu plus simple de recruter, sauf dans l'intérim où continue à y avoir des tensions. L'enquête réalisée, par exemple, par BPI et Rexecode, qui vient d'être publiée comme tous les trimestres, indique que 34% des PME se disent aujourd'hui contraintes par des difficultés de recrutement. C'était quand même presque 50% au cours des 5 années précédentes. Et puis si elles ont eu moins de peine à recruter, c'est aussi évidemment parce qu'elles sont plus prudentes en matière d'embauche. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que finalement, après la prudence extrême de cette fin d'année, les indicateurs du début d'année sont plutôt bons. Le fait qu'on ait un budget, tout ça fait que l'horizon s'éclaircit un peu sans doute pour les patrons, notamment chez les cadres.
Ce serait pas si pire. Merci Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, il est 8h11. Je voudrais qu'on parte au 32-16. Je dois dire que vous êtes très nombreux à réagir. Vous avez entendu Albert et Christelle, qui évoquait, Albert, la fin de vie de son père, qui avait décidé d'aller mourir en Suisse, et Christelle, qui disait la douleur que ça avait été d'accompagner sa mère et de se sentir impuissante. Et vous êtes nombreux depuis à vouloir, vous aussi, réagir, témoigner. Stéphanie, vous êtes avec nous, vous nous appelez de Seine-Maritime, je crois que vous êtes chef d'entreprise dans la carrosserie industrielle. Oui. Vous avez aussi, vous, eu la douleur d'accompagner, je crois, votre propre mère, et vous pensez déjà aussi à la suite pour vous, c'est ça?
Alors moi, j'ai accompagné mon papa.
À votre papa.
Il y a bientôt 19 ans. Ça a été une douleur... pour lui, indescriptible, mais pour nous, traumatisante, avec, comme Christelle tout à l'heure, effectivement, des demandes de l'aider à mourir, tellement il souffrait, qu'il arrive un moment où les soins palliatifs, de toute façon, plus rien n'y fait, et ça dure des semaines, jusqu'à ce qu'il finisse par décéder dans la douleur.
Il était malade, c'est... votre père
Ouais, il était malade, il avait un cancer de la prostate, et après, il a eu des... métastases osseuses, sur tout le corps, donc du coup très très douloureux. Et
quand il vous disait qu'il voulait en finir, comment vous avez réagi, comment vous avez fait, vous, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous en pensez encore aujourd'hui?
Le regret de pas avoir pu l'aider, vraiment. 19 ans après, je peux vous assurer que c'est un traumatisme pour moi et mon frère encore aujourd'hui. Mmh. Et je veux pas que mes enfants vivent ça, parce que ils voient que les effets que ça a eu sur moi, sur mon frère, sur ma maman. Et nous, on a dit, on veut pas ça. On veut que la vie, ça soit doux, ça soit, et on veut pas, je veux pas que mes enfants, un jour, puissent m'entendre et qu'ils puissent, comme moi aujourd'hui, comme Christelle, se sentir impuissante et de regretter de pas avoir pu faire ce qu'il aurait fait pour l'aider.
Vous avez pris des dispositions? Vous avez pris des dispositions, ouais. Stéphanie ?
Nous, on a pris des dispositions. On a signé chez le notaire, alors avec mon fils aîné qui a 26 ans, on a signé un mandat de protection chez un notaire. C'est un acte qui n'est pas... ça coûte pas une fortune, ça coûte dans les 300 euros. Ouais. Et on a mis noir sur blanc plein de choses. Et c'est une discussion que j'ai eue avec mes 3 enfants. Et voilà, et ils savent ce que je veux, ce que je veux pas, et ce que je veux pas pour eux, ce qu'ils aient à subir. Et du coup, voilà, et on en a largement discuté.
Et comment ils vivent ça, vos enfants? Parce que c'est vrai que Christelle, tout à l'heure, elle disait comme vous, hein, qu'elle en avait aussi parlé à ses enfants, qu'elle leur avait écrit des lettres, qu'ils avaient chacun en leur possession ces lettres. Mais elle disait, et en même temps, je me dis, si je n'ai plus cette lucidité-là, se diront-ils, c'est le bon moment, ça y est, on y va. Voilà. Est-ce que ces questions-là, vous y pensez aussi pour eux? Comment vous en parlez?
On en a longuement parlé. J'ai la chance, enfin, je pense que c'est un dialogue qu'il faut avoir, mais de toute façon, ils ont vécu la maladie de leur papy, ils ont vu l'état dans lequel.
De détresse dans lequel ça vous a mis aussi vous.
Et le traumatisme que ça a été finalement pour toute la famille. Et quand on est confronté à ça, je pense que c'est des discussions qu'on a parce que quand on vit pas la maladie dans une famille, on voit ça d'un regard extérieur, mais quand on la vit pleinement, forcément, ça nous touche différemment. Et
Vous le savez, vous l'avez vécu et vous en parlez avec eux. Merci beaucoup Stéphanie de votre témoignage ce matin. Albert, Christelle, Stéphanie, merci à chacun de vous. Et comme Stéphanie, vous connaissez le chemin, le 32-16 pour partager, pour témoigner, pour réagir. Il est 8h15 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, le meilleur d'Arnaud de Manche. À 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera Rachida Dati. Elle a démissionné hier soir du gouvernement pour se lancer, dit-elle, à 100% dans la bataille de sa vie, dit-elle, la mairie de Paris. Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Il est 8h15, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h18, le meilleur d'Arnaud de Manche, tout de suite.
Bonjour tous les amis. Alors ce matin, voilà, je sais, on va encore causer du budget, de l'Iran, de Marine Le Pen. On est en février, il pleut quoi. Moi j'ai envie de vous faire kiffer le matin. Vous voyez ? Alors avant l'actu, je propose de vous emmener tous en boîte de nuit. Pascal, Géraldine, faites chauffer le soutif à paillettes. Vous aussi Mathieu, on y va. Car une boîte portant le nom de Trump va ouvrir à Bourges le 14 février.
Mais non !
Si, c'est vrai. Rien de tel pour passer une belle Saint-Valentin à Pau. Un week-end en amoureux dans le Poitou pour inaugurer un nightclub Trump. Hein ? Alain Bauer vous y attend déjà. Au bar, il regarde les couples s'enlacer sur Hôtel California en se disant « Ça aurait dû être Apolline et moi. Je suis tellement déprimé. Pour me consoler, je vais écrire un livre sur l'Iran. » La dictature est terrible. Les États-Unis interviendront. Des mollahs, les chiites. Le détroit d'Hormuz. Aïe, j'ai fini. Et hop, une invite à la matinale. Et comme ça, il va enfin vous voir.
C'était que ça, chez.
Alors, bref, l'actu, on va en parler quand même. Nous sommes le 4 février 87.
Oui.
Pardon, 2026. Et Marine Le Pen assistait hier au réquisitoire dans son procès en appel pour un détournement de fonds. 5 ans d'inéligibilité requis, 1 an de prison ferme, ça devient compliqué pour 2027. Puis on la sent démotivée là, elle veut plus se battre. Toute sa défense, ça a été « Oui, si j'avais su que je me ferais choper, je l'aurais pas fait, hein, évidemment, je peux plus bête que Balkany. Hein. » Tout le monde m'a dit que vous étiez laxiste aussi, les juges, faudrait savoir. Mais non, bats-toi Marine, résiste, prouve que tu existes pour la justice. Parce que nous, pourquoi on serait condamné à 5 ans ferme de Jordan Bardella, le même qu'elle en moins bien? Ben non, on n'a rien fait, monsieur le juge. Moi, j'ai pas détourné d'argent du Parlement européen. Je suis même pas dans les listes Epstein. Alors qu'à l'époque, j'avais 12 ans, j'aurais pu. Hein.
Non.
Mais j'étais occupé à la paroisse à Versailles. Je me suis fait avoir d'ailleurs. Hein, parce que d'un côté, il y avait une île dans les Caraïbes. De l'autre, un presbytère pas chauffé dans les Yvelines. Je me suis fait arnaquer. Hein. Vraiment.
Oh non. Le géant français de l'informatique Capgemini a annoncé la mise en vente de sa filiale américaine qui aide la fameuse police américaine de l'immigration à localiser les migrants.
Et ça a fait scandale. Rendez-vous compte, une société française qui vend des choses ignobles autour du monde. Comme si la vache qui rit ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'on a fait au monde, hein ? Les membres du gouvernement ont fait les vierges effarouchées en disant « Que huit ? Que ment ? Nous vendons des services pour nuire à l'être humain, nous les Français ?» Le peuple des Lumières. Les Mirage 2000 qu'on vend au pays du Golfe, c'est pas juste pour faire joli dans les défilés. Hein. Les 5 sous-marins qu'on a vendus au Pakistan, ils sont pas là pour étudier la reproduction des poulpes dans l'océan Indien.
Ah
c'est
bon
pas leur priorité. Ah non, alors que c'est fascinant, Apolline. Fascinant.
Le poulpe dominant pointe de manière ityphalique son ectocolyte qui sert d'organe copulateur afin d'introduire les gamètes dans la femelle poule. J'arrête, hein, je vois bien que j'excite tout le monde.
L'eurodéputée Marion Maréchal a déclaré qu'elle ne croyait pas que son grand-père, Jean-Marie Le Pen, était antisémite.
Oui, elle a dit Est-ce que les condamnations sondent le cœur des hommes? Je ne crois pas. Heureusement qu'elle n'est pas avocate, hein. Monsieur le juge, est-ce que les condamnations de mon client, Francis Holm, sondent réellement son cœur, qui n'est que fragilité et sensibilité, n'est-ce pas, Francis?
Marion, est-ce que tu buzzes?
Alors, Jean-Marie Le Pen avait une maison de disques qui éditait des chants nazis et disait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Mais vous connaissez les gens, Apolline, ils voient le mal partout. Voilà. Si ça se trouve, Jean-Marie Le Pen rêvait secrètement d'être investi par LFI aux élections. Mais après, on n'est jamais vraiment objectif quand ça concerne sa famille. Louis Sarkozy pense que son père est innocent. Jésus pensait que sa mère était vierge. Éric Ciotti, son père Jean-Claude Duss, il pensait qu'il allait conclure. On se fait avoir tout le temps.
C'est l'heure des vacances. C'est l'heure de gagner vos vacances. Non, pas nos vacances, Pascal. Non. Mais les vacances de Julie. Bonjour Julie.
Oui,
Julie,
bonjour.
C'est vous qui avez gagné. Félicitations.
Oh, génial.
Oui.
Merci.
On vous envoie en vacances avec Bel Embras. Vous êtes dans quel coin, Julie?
Alors, moi, je suis à Bordeaux.
Vous êtes à Bordeaux. Vous avez eu beaucoup de pluie. Ça a été dur.
Beaucoup, oui.
Eh ben, voilà.
C'est plus des champs. On a des piscines partout.
Bah oui. Alors, justement, c'est très heureux que ce soit vous qui ayez gagné ces vacances. Donc, félicitations. Vous avez remporté
ce séjour
d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bel Embras, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Ce que j'aime le mieux, c'est qu'ils s'occupent des enfants. Ça, j'avoue que ça fait partie du package. Julie, en tout cas.
Oui, tout à fait. C'est super. Merci.
Vous en avez des enfants ou pas?
Oui, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi.
Ah bah, il va être content aussi. Il va être content aussi. C'est pile l'âge où on est content. Voilà, exactement. On est content d'avoir des gens qui s'en occupent. Julie, je vous embrasse. Très, très belle journée et félicitations à vous. Il est 8h23. Dans un instant, le face-à-face, mon invité. Elle est 100% candidate à la mairie de Paris puisqu'elle n'est plus ministre de la Culture depuis hier soir. Rachida Dati répond à mes questions. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Rachida Dati.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes désormais ancienne ministre de la Culture puisque depuis hier soir, vous êtes pleinement candidate à la mairie de Paris et vous êtes par ailleurs déjà maire du 7e arrondissement. Emmanuel Macron vous a appelé hier soir?
Non, on s'est vu hier.
Mais il vous a rappelé hier soir en plus?
Non, on s'est vu hier, ça a suffi.
Vous êtes vu pour lui remettre votre démission?
Je lui ai remis effectivement hier matin, puis après on a eu un entretien assez long tous les deux. Et donc voilà, mais on se parle très régulièrement, il n'y a pas de...
Il vous a dit son soutien?
Oui,
et il l'a donc exprimé. Donc c'est vous, sa candidate à la mairie de Paris?
Je suis la candidate à la mairie de Paris, soutenue par Emmanuel Macron, de manière très amicale et très aussi politiquement.
Pour vous, c'est une évidence?
Mais il l'a dit, il l'a exprimé, y compris dans un communiqué.
Et il vous l'a redit hier, non? Parce que c'est vrai que quand on écoute cette semaine les déclarations de Pierre-Yves Bournazel qui dit « Je ne me rallierai ni à Grégoire, ni à Dati au second tour. Paris mérite mieux que le tic-tac stérile entre une gauche de l'échec et une droite des affaires. » Depuis, il a d'ailleurs réitéré ses propos et il l'a redit dès hier soir. Les choses sont claires, restent claires. Je suis candidat pour gagner, pas pour rejoindre Grégoire ou Dati. Vous lui dites quoi? Vous lui dites « Tant pis pour toi » ou vous lui tendez la main?
Non, mais vous savez, être candidat à la mairie de Paris, c'est sérieux. Il y a une certaine forme de gravité dans cette candidature. Vous préparez un projet. Moi, ça fait des années que je travaille sur ce projet, avec des Parisiennes, des Parisiens, avec des collectifs et des associations, mais aussi avec des agents de la ville, comme par exemple les agents de la propreté, et avec une équipe d'élus qui est ancrée, qui est expérimentée.
Donc,
qui connaît l'expérience de la gestion d'une ville. Non, je dis simplement, moi, je ne vais pas répondre à des petites phrases. Simplement, les masques sont tombés. Ça démontre quoi, Apolline de Malherbe? Ça démontre que sa candidature n'est pas une candidature de volonté de l'alternance à Paris, c'est une candidature soit de l'échec, soit de la volonté de reconduire cette gauche. Et je vous le dis, Madame de Malherbe, c'est une gauche radicale. C'est une gauche, c'est la même équipe en pire. Quand sur la liste de Monsieur Emmanuel Grégoire, vous avez des LFI, Madame Simonet, Monsieur Sorel, qui effectivement n'ont pas reconnu le 7 octobre comme étant un attentat terroriste, antisémite. Quand Madame Simonet est soutenue par Monsieur Jérémy Corbyn, qui est un antisémite notoire, qui a été même exclu de son parti pour cela. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Donc moi, ce que je dis aux Parisiennes et aux Parisiens, c'est soit vous voulez le changement et l'alternance à Paris. Et c'est la première fois, et c'est historique. Tous les sondages, toutes les études démontrent que depuis 2001, c'est la première fois qu'à Paris, les Parisiens souhaitent cette alternance. Et donc, moi, je leur dis, le choix, c'est dès le premier tour, cette volonté d'alternance. Il faut qu'il y ait une dynamique du changement dès le premier tour. C'est soit le changement avec mon équipe et moi, avec un projet structuré, cohérent, travaillé, ou la gauche radicale à Paris.
On n'en aura pas pour six ans s'ils sont réélus. Mais au fond, je note quand même, Rachid Hadati, que vous ménagez Pierre-Yves Bournazel. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez, vous, lui, il dit, je ne me rallierai jamais à Dati, mais est-ce que vous, vous dites, allez, au soir du premier tour, on se parlera et peut-être même qu'on pourra travailler ensemble?
Alors, moi, je fais une campagne de premier tour. C'est tous les jours. Là, ce matin, je suis sur votre antenne. Ensuite, j'ai des réunions. C'est tous les jours. C'est vraiment non-stop. Je parle aux Parisiens. Je parle à des collectifs, des associations, à des habitants, comme vous avez pu le voir. Par exemple, je vais dans le parc social.
Mais il y a des gens qui sont tentés de voter pour Pierre-Yves Bournazel. Est-ce que vous leur dites, votez pour lui, ou alors, si vous avez voté pour lui, je serai aussi là pour vous tendre la main en deuxième jour?
C'est dès le premier tour. Je le dis aux Parisiennes et aux Parisiens, le changement, la volonté de changement, la dynamique du changement se jouera dès le premier tour. Et donc, il faut pas qu'il y ait des dispersion de voix. Parce que ça n'est pas une présidentielle, ça n'est pas une législative, c'est une municipale. Et donc, nous souhaitons mettre toute notre force, toute notre énergie dans cette élection.
Moi, j'ai l'énergie. La question de Pierre Bournazel, en fait, c'est pas une question pour vous.
Non, moi, c'est ma question. Non, parce que ceux qui veulent votre échec ou qui ne veulent la poursuite, faire réélire la gauche, c'est pas mon sujet. Moi, je veux m'adresser à tous ceux qui veulent le changement.
Ça a mis très mal à l'aise Édouard Philippe.
Édouard Philippe a fait un communiqué parce qu'il a compris qu'il y avait un enjeu majeur à Paris et que l'alternance et le changement, je pouvais le porter. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait un communiqué pour évidemment rappeler à l'ordre Pierre-Yves Bournazel. Édouard Philippe, en responsabilité, il sait qu'il y a un enjeu majeur à Paris et lui-même, s'il est candidat à l'élection présidentielle, il aura besoin aussi de tous ses électeurs de la droite et du centre.
L'alternance.
Mais aussi tous les électeurs qui veulent le changement à Paris.
Vous dites, Rachid Hadati, avec moi, c'est l'alternance. Sur la question des valeurs, Pierre-Yves Bournazel, il dit « nous avons une différence de valeurs. Je ne pratique pas la brutalisation, l'intimidation, les menaces. » Il dit que c'est ça vos valeurs à vous. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est quoi vos valeurs?
C'est comme quand Monsieur Grégoire m'insulte de manière outrancière.
Il dit de vous que vous êtes la peste brune.
Oui, mais vous trouvez
la peste brune.
Vous trouvez ça à la hauteur quand vous connaissez ma vie et mon parcours?
Qu'est-ce que vous lui répondez?
Moi, vous dire, Monsieur Grégoire, c'est du racisme social. Moi, je vous le dis, il y a un plafond de verre dans ce pays pour accéder à des hautes responsabilités. Et cette gauche de l'entre-soi, a toujours refusé. Ils préfèrent des gens comme moi, comme étant des victimes, qu'on soit leur victime, ou qu'ils, à la limite, soient... c'est fini, cette
époque-là. Ça veut dire quoi, des gens comme vous?
Des gens comme moi, avec le parcours que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que je serai à gauche...
Ça veut dire des gens qui s'appellent Rachida, c'est ça que vous voulez dire?
Entre autres, avec mon origine, avec mon parcours, parce que moi, j'ai toujours refusé ces valeurs de cette gauche-là, qui considère...
Vous l'accusez de vous reprocher, au fond, de vous être émancipé d'une condition dans laquelle ils trouvaient confortable de
exactement,
vous laisser.
Mais moi, j'ai des gens de chez eux, qui de chez eux, de leur parti, qui me disent, oui, mais maintenant que t'es arrivé là où tu es arrivé, est-ce que tu n'as pas le sentiment de trahir ta condition? Mais quelle condition, madame de Malherbe? Je suis citoyenne, pleine et entière, comme eux. Et ils me dénient cela. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ils ont beaucoup perdu, la gauche a beaucoup perdu avec, justement, en s'éloignant de ces valeurs d'égalité, d'émancipation, de liberté. Ils se sont éloignés de ces valeurs. Regardez, la gauche, de plus en plus, elle s'est alliée à cette gauche radicale, qui est une gauche communautariste, pour ne pas dire séparatiste. Ce ne sont pas mes valeurs.
Vous l'accusez de racisme social, Emmanuel Grégoire. Un mot aussi sur Sophia Chikirou, une autre de vos adversaires, c'est l'adversaire LFI en l'occurrence, candidate pour la mairie de Paris. En réunion publique cette semaine, elle a eu cette diatribe contre les journalistes. Elle dit virer les fascistes des médias parce qu'on n'en peut plus des laquais, des fascistes des plateaux télé. Vous n'êtes pas journaliste, dit-elle au parterre de journalistes qui est devant elle. Elle dit vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte. Vous êtes des petits agents. Elle parle même de nazis à petit pied. Qu'est-ce que ça vous a inspiré?
D'après vous, ce ne sont pas mes valeurs. C'est pas moi. Voilà. Mais faut interroger. Monsieur Grégoire, hier, a dit Madame Chikirou n'est pas mon adversaire. C'est Rachid Hadati. Voilà. Voilà où sont les valeurs de Monsieur Grégoire. Ce sont les valeurs de Madame Chikirou.
Vous sous-entendez que pour vous, au deuxième tour, ils s'allient.
Mais il l'a dit lui-même. Il a dit, il n'a pas voulu répondre à cette question, mais il a déjà du LFI sur sa liste.
Des ex-LFI.
Non, c'est pas une rupture dans les valeurs, c'est une rupture avec des personnes. Ils ont quitté le Mélenchon, ils n'ont pas quitté leurs valeurs. Madame Simonet, vous l'avez entendu s'excuser ou remettre en cause son soutien, remettre en cause le soutien de Monsieur Corbyn, Monsieur Sorel, qui a dit que le 7 octobre n'était pas un attentat terroriste et antisémite.
Il dit, alors à ce propos, Emmanuel Grégoire, qu'il a repéré sur vos listes une zémouriste qui soutenait Reconquête, Souraya Nadji. Est-ce que c'est vrai?
Elle n'est pas Reconquête. Elle est sur une liste du 13e arrondissement et elle n'est pas Reconquête.
Il a retrouvé des tweets d'elle dans lesquels elle soutenait Éric Zemmour.
Elle n'a jamais soutenu Éric Zemmour. Elle ne soutient pas Reconquête. Elle n'est pas Reconquête. Moi, je veux bien. Mais quand vous avez Monsieur Béliard qui envoie des fichiers pour demander aux candidats de donner leur orientation sexuelle ou de dire s'ils sont racisés pour composer leur liste, c'est sorti dans la presse. J'ai vu ça hier dans le JDD.
Au fond, Monsieur Béliard, vous leur reprochez de mettre les gens dans des cases. C'est ça l'idée.
Voilà,
c'est ça,
voilà ce qui est devenu la gauche et voilà ce qu'est la gauche parisienne. C'est pour ça que moi je dis aux Parisiennes ou aux Parisiens, si vous ne votez pas pour le changement et l'alternance avec un projet cohérent, une équipe expérimentée, moi j'ai l'énergie, j'ai la vitalité, j'ai l'envie. Je vais changer Paris. Je changerai Paris.
Pardon, Rachida Dati, mais la vitalité, l'envie, ils peuvent tous le dire. Sarah Knafo, d'ailleurs, en fait presque son slogan
ou sa
vitrine de campagne.
On a un projet.
Ça suffit pas.
On a un projet structuré qui a été travaillé avec les Parisiennes et les Parisiens sur la sécurité, sur la propreté, sur la mobilité, sur le logement, sur la lutte contre la sécurité, qui est un phénomène grave à Paris.
Voilà, la question de la sécurité, elle est mise en avant partout en France, par tous les Français qui disent que c'est l'une de leurs priorités aujourd'hui. Vous feriez quoi de différent? Qu'est-ce qui changerait avec vous?
Bah tout. Je fais de la politique pour cela, pour changer la vie des gens. Sinon, c'est pas la peine de se présenter à une élection. À Paris, entre 2019 et 2025, le narcotrafic a augmenté de 218%.
Non, mais moi, j'ai compris sur le bilan. Que je voudrais savoir, ce sera?
Les agressions sexuelles ont augmenté de 60%. Les atteintes aux personnes ont augmenté de 25%. Moi, je vais avoir une politique de lutte contre l'insécurité qui marchera sur deux jambes. Il y aura évidemment des caméras. Caméras de vidéoprotection, par exemple, les caméras de vidéoprotection.
Il y en a à Paris.
À Paris, c'est de la vidéo-verbalisation, pour l'essentiel. Ça n'est pas de la vidéoprotection. Il y a 7000 rues à Paris. Je mettrai 8000 caméras. Il n'y aura plus d'angle mort. Voilà ce que je propose aux Parisiens. Ce sera une police municipale armée, formée, équipée. Il y aura 5000 policiers municipaux armés, équipés, formés, en appui de la police nationale. Nous aurons un centre de supervision urbain qui sera dans chaque mairie d'arrondissement. Aujourd'hui, quand vous êtes maire d'arrondissement, vous ne connaissez pas l'insécurité de votre arrondissement. Soit vous la prenez par la presse, soit par les habitants.
Dans le 7e dont vous êtes maire, l'insécurité, notamment
sur le Champ de Mars,
notamment autour du Champ de Mars, est un problème réel, majeur, que disent les habitants.
Oui, c'est le Champ de Mars qui appartient à la mairie de Paris.
Vous ne pouvez rien faire,
Monsieur Grégoire? Non, c'est sous l'autorité de... Tous les grands espaces sont sous l'autorité de la mairie centrale. On a demandé des caméras de vidéoprotection, refus. On a demandé une police municipale dédiée au Champ de Mars, refus. Et la délinquance explose. Vous savez que sur le Champ de Mars, il y a des agressions sexuelles, pour ne pas dire des viols, tous les jours, Madame de Malherbe, tous les jours. Moi, je souhaite revégétaliser ce site, le rendre comme il était, un site patrimonial historique, et évidemment avoir une grille patrimoniale qui puisse le clôturer, le fermer évidemment le soir, comme nous avons par exemple au Parc Monceau ou le Jardin du Luxembourg. C'est comme ça que vous rétablissez la sécurité, et de mettre des caméras de vidéoprotection dans toutes les rues de Paris.
Mais il n'y aura pas une rue sans caméra.
Parce qu'on évitera les angles morts. C'est ce que demandent les Parisiens. Ils veulent ressentir, revenir à un sentiment de sécurité à Paris. Ça sera avec moi, ces dispositifs seront effectifs et efficaces.
Un sentiment de sécurité ou une sécurité réelle?
Une sécurité réelle.
Rachida Dati, vous avez beaucoup parlé de la question des agressions sexuelles dans le périscolaire. 52 animateurs ont été suspendus en 3 ans, dont 13 écoles qui sont donc concernées en 2025. Vous dénoncez une véritable omerta à la mairie de Paris. Qu'est-ce qui ferait qu'avec vous, il n'y aurait plus ces drames?
Aujourd'hui, le périscolaire, il est géré par la ville de Paris. Quand vous êtes maire d'arrondissement, vous ne connaissez pas les animateurs qui viennent dans vos écoles, vous ne connaissez pas les activités de périscolaire qui sont dispensées dans vos écoles, et aujourd'hui, le périscolaire est morcelé. C'est 30 minutes par-ci, 20 minutes par-là, 40 minutes par-là. Donc, vous ne pouvez pas avoir un périscolaire structuré et, j'allais dire, même structurant pour les enfants. Les animateurs, il y a 14 000 animateurs sur la ville de Paris, 11 000 vacataires. Pas de contrôle avant le recrutement, pas de diplôme d'État, et pas de contrôle inopiné ou de suivi au moment des activités du périscolaire. Si je suis élue maire de Paris, je reverrai totalement le périscolaire. Qu'est-ce que je ferai? Je reviendrai à la semaine des 4 jours, avec les études dirigées le soir, où les professeurs des écoles sont très demandeurs, ils peuvent donner des cours en heures supplémentaires le soir, pour accompagner les enfants, et toute la journée du mercredi, ça sera du périscolaire de qualité.
Et ça, pour vous, ça évite les drames?
C'est d'abord, on les recrutera avec des diplômes d'État liés à la jeunesse, avec un contrôle avant tout recrutement, notamment avec le contrôle dans les fichiers, et contrôle inopiné au moment des activités, comme on le fait dans le cadre de l'éducation nationale, quand il y a des inspections. Et ces animateurs scolaires, ce que je souhaite qu'ils soient le reste de la semaine, moi je suis pour une école inclusive, et il manque beaucoup d'AESH à Paris.
Est-ce que vous donnerez...
Juste pour terminer. Oui. Et il manque beaucoup d'AESH à Paris. Ces animateurs...
Par contre,
oui, ces animateurs pourront être... seront les animateurs du périscolaire le mercredi, et le restant de la semaine pourront être AESH pour accompagner ces enfants qui ont besoin d'être à l'école comme les autres enfants.
Est-ce qu'avec vous, le PSG restera vraiment à Paris?
Moi, je souhaite qu'il reste
à
Paris.
Vous étiez d'ailleurs au parc hier soir, non?
Non.
Non,
j'étais, là je vous aviez... dire, j'étais une réunion de campagne.
Ça coûte combien un Parc des Princes?
Alors, sur les travaux, aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros au moins pour refaire les travaux. Le Parc des Princes est très vétuste.
Non, mais je veux dire, vous allez leur vendre combien?
Non, justement, il y avait eu une négociation qui avait eu lieu entre Madame Hidalgo et le président du PSG. Les Verts ont empêché Madame Hidalgo de mener ces négociations, alors qu'elle voulait le vendre, puisqu'elle a demandé à mon groupe politique qu'on appuie ces négociations. Mais comme on ne connaissait pas les conditions ni les termes de la négociation...
Mais là, désormais, ça fait vraiment partie de vos projets. Vous allez leur vendre combien?
Alors, justement, aujourd'hui, le Parc des Princes est vétuste. Il y a une partie qui est classée et il faut tout le refaire. Il faut évidemment voir le Parc des Princes en soi et les abords. Moi, je voudrais en faire un grand parc sportif auquel les Parisiens pourront avoir accès, et un grand centre culturel qui soit intégré. On a commencé à regarder.
Mais les négos, c'est aussi de l'argent.
Oui,
je veux dire, est-ce que ça veut dire que c'est cet argent, par exemple, pour la réfection du Parc des Princes,
oui,
qui va payer? C'est vous? Enfin, c'est la mairie de Paris ou c'est le PSG?
Alors,
quand on achète, on fait des travaux chez soi.
Si vous le vendez au club, évidemment, ils prendront en charge les travaux, bien évidemment. Et donc, je le dis, nous entamerons des négociations pour la vente du Parc des Princes au club PSG, parce que moi, je souhaite que ce club reste.
Mais vous
n'avez
pas dit combien? J'imagine que vous avez quand même réfléchi. Eux, ils disent 40 millions, ça vous paraît suffisant?
Non, c'est pas.
Non.
C'était, d'ailleurs, le chiffre qui est sorti n'a jamais été confirmé. On n'a jamais évalué, en fait, le prix du Parc des Princes.
Bah, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est quand même essentiel.
Il y a une expertise. Vous lancerez une expertise. Aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments. Monsieur Grégoire et Madame Hidalgo, c'était Monsieur Grégoire qui avait rencontré le président du PSG. Et effectivement, on n'a jamais eu les éléments d'évaluation de ce parc.
Hakimi a été soutenu hier, d'ailleurs, par les supporters. Il est renvoyé devant la cour criminelle pour viol. Est-ce que vous aussi, vous lui dites votre soutien?
Moi, je le connais et je trouve qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Quand tant quelqu'un n'est pas condamné, il faut respecter la présomption d'innocence.
Pour vous,
il n'a pas de condamnation.
Votre dernier acte de ministre de la Culture aura donc été de démissionner Laurence Descartes.
Elle a présenté sa démission.
Mais elle savait de toute façon que vous la souhaitiez, cette démission.
Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai trop de respect pour les gens et les personnes engagées. Quand vous êtes président du musée du Louvre, c'est pas anecdotique. Mmh. Et donc, quand il y a eu ce vol spectaculaire qui a choqué la France entière et bien au-delà de ses frontières, il était important de connaître les causes de ce vol, ce qui a permis ce vol, les causes, les dysfonctionnements, les failles, évidemment, dans ce grand musée, qui est le plus grand musée du monde, qui est aussi notre fierté nationale, mais qui est reconnue aussi partout dans le monde.
En tout cas, pour vous, il est sain qu'elle ait démissionné?
On a mis en place, j'ai demandé à mettre en place des actions et des mesures d'urgence. 17 mesures ont été mises en œuvre. J'ai constaté qu'il y avait une gouvernance à revoir, une organisation à revoir, notamment de mettre en priorité la sécurité et la sûreté dans les établissements, dans ces grands opérateurs. l'heure. La priorité, c'est, ça n'a pas été trop la sécurité du bâtiment ou des œuvres, ça a été d'abord la sécurité des publics, notamment quand vous êtes dans des contextes de lutte contre le terrorisme. Donc on a mené à bien cette réorganisation, il y a une nouvelle gouvernance, et là on a évidemment nommé un nouveau
président. Vous avez le sentiment de partir du coup, de ce point de vue-là, le travail accompli, vous ne serez pas au César ce soir ?
Comme pour le musée d'Orsay.
Vous ne serez pas au César ce soir ?
On s'interroge. Ah. Non, mais normalement, je ne devais pas y être parce que j'espérais une passation de pouvoir pour tout vous dire aujourd'hui.
D'accord, mais c'est pas sûr. S'il n'y a pas de passation, vous y serez. En fait, vous aimeriez ne pas avoir à y aller.
Non, mais moi, quand c'est fini, c'est fini.
Donc, vous n'avez pas envie d'y aller ce soir.
C'est pas ça. Non, moi, j'ai du respect. Vous savez, avoir été ministre de la Culture, vous ne pouvez pas imaginer, c'est une des plus belles missions que j'ai eues dans ma vie. Pour cela, je serai infiniment reconnaissante au président Macron. J'ai cru que, quand il m'a proposé d'être ministre de la Culture, franchement, je me suis dit, c'est pas mon univers, c'est pas mon milieu. Et je trouve que c'est le ministère qui m'allait le mieux, parce que c'est un ministère régalien. C'est un ministère de la cohésion, de la lutte contre les fractures, de la lutte contre le communautarisme, de la lutte contre toutes les formes de séparatisme, quand on atteint les libertés de création, de programmation. Moi, je suis très fière d'avoir permis et contribué très fortement à la démocratisation de la culture, et notamment dans les territoires ruraux. C'est ma grande fierté.
Merci, Rachida Dati.
Également sur la restauration et la protection du patrimoine, je suis très fière évidemment de cela.
Juste avant de vous laisser, pourquoi vous ne voulez pas débattre ?
Non, mais moi, les débats,
vous le savez bien.
Ah bon, j'ai peur de rien. C'est pas ça.
Bah alors.
Mais je vais vous dire, aujourd'hui, les conditions de respect des personnes n'y sont pas. Je serai forcément la cible des autres candidats. Ça m'intéresse pas. Là, vraiment, tout mon temps, c'est pour les Parisiens. On verra au deuxième tour.
Mais c'est des grands. Vous avez vu Lyon, oui. Vous avez vu Marseille, oui. Je serai à Nice lundi. Oui, mais c'est des grands moments démocratiques. Est-ce que la démocratie, c'est pas d'accepter de débattre?
Oui, moi, la démocratie, c'est d'écouter les Parisiens, de débattre avec eux. Moi, me faire engueuler par des Parisiens, ça me gêne pas. Vous avez vu, j'ai débattu pendant 3 heures sur votre antenne avec des personnes, des Français et des Parisiens ou des Franciliens que je ne connaissais pas. Et toute tendance politique confondue, toute condition, et j'adore ça. D'abord, c'est ce qui fait nourrir mon engagement politique, et donc je préfère débattre avec les Parisiens et les convaincre pour qu'ils votent utile pour le changement dès le premier tour et dès le 15 mars.
Merci beaucoup Rachida Dati d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Donc candidate à 100% à la mairie de Paris, il est 8h48 sur RMC et BFM TV.
Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Alexandre Bompard, le PDG des magasins Carrefour, était mon invité dans le face-à-face. Et souvenez-vous, il était resté face à Canteloup.
Rebonjour Alexandre Bompard.
Rebonjour.
Vous avez pointé certains dysfonctionnements de notre pays. Quelqu'un qui est en phase avec votre analyse tenait à nous dire un petit mot, c'est Jean-Louis Borloo. Bonjour Jean-Louis Borloo.
Bonjour. J'ai écouté Alexandre Bompard. Il a raison sur les dysfonctionnements de notre pays, dysfonctionnements de partout. Et il est bien passé pour savoir, parce que lui-même, bon, on peut le dire, hein, c'est pas un vrai modèle de cohérence. Hein. Bon, alors si tu veux, ça part bien au départ. T'as vu son parcours au départ. Il fait, tu vois, élève brillant, étude exceptionnelle. Il fait l'ENA, quatrième à l'ENA. C'est formidable, la voie royale, l'inspection des finances. Et puis après, ça part en caca. Il annonce à ses parents qu'il veut aller dans le sport. Là, il se retrouve à Canal+, série des sports. Bon, encore, c'est de la télé, c'est prestigieux, tu vois, ça brille un peu. Puis après, ce qu'on il part à la radio.
Ah bah oui.
Alors que tout le monde le sait, quand tu bosses à la radio, que t'as qu'un seul rêve, c'est de partir à la télé. Regarde Texer, il rêve de faire la télé. Non, lui, il fait le chemin à l'envers. Quelle bouche le pique, on sait pas. Il va bosser chez Darty. Un petit gilet rouge, je sais pas. Après, il change, il me fait des mélanges. Il part à la Fnac, le petit gilet jaune. Alors que les mélanges, on sait, moi je te le dis, je sais, tu mélanges le rouge, le jaune, c'est pas bon. Et puis, il te fusionne tout ça, t'y comprends que dalle. Il vend des machines à laver à la Fnac. Après, il vend des bouquins de la papeterie chez Darty. Il fusionne tout ça. Comprends que dalle, c'est un bordel. Et là, t'as Carrefour, il dit, c'est qui ce gonce qui vend tout et n'importe quoi, qui est capable. Il est fait pour. C'est notre profil, il vient chez nous. Donc, il finit à Carrefour, mais ça, c'est la dégringolade, il va finir à foire fouille.
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès d'une des grandes voix d'RMC, Roland Courbis. Et Zinedine Zidane tenait à lui rendre un dernier hommage.
Oui, pardon, bonjour à M. Strozzi. Non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que j'ai bien connu Roland. Déjà, c'était un bon joueur. C'est l'OM, Olympiakos, je m'en souviens, Monaco. C'était pas mon niveau non plus, mais c'était quand même un super joueur. Et puis, c'était surtout aussi un grand entraîneur. Bon, les Girondins, Marseille, bon, c'était pas mon niveau non plus, mais c'était quand même un grand entraîneur. Surtout, c'était vraiment une grande gueule, toujours à l'aise pour parler. Et là, pour le coup, c'était vraiment pas moi non plus.
Franck Naffo poursuit sa campagne municipale à Paris. Éric Zemmour, ce week-end, elle était interrogée sur le prix du pass Navigo par des journalistes. Elle s'est trompée. Elle a dit 52 euros par an au lieu de 91 euros par mois.
Non, mais arrêtez! Arrêtez de dénigrer Massara, elle fait une super campagne, surtout pour une femme, pardon.
Hein. Ah bah voilà.
Mais non, mais ça lui fait du bien, elle prend l'air, elle fait des réunions de quartier avec d'autres bonnes femmes, elle parle de bac à fleurs, de menus de cantine. C'est très bien comme ça, chacun son truc, voilà.
Dans la même interview, elle a été incapable de citer le nom de trois joueurs du PSG.
Non mais, excusez-moi, mais les joueurs du PSG, ils se ressemblent tous. Hein. Mais pardon, mais déjà de près, ils sont pas faciles à distinguer, mais de loin. Hein, si on voit pas leur numéro dans le dos, ben on est paumé, pardon.
En tout cas, vous faites bien la distinction quand même. Parce que dire combien la Ligue des Champions, le PSG, combien de Ligue des Champions le PSG avait gagné.
Oui, regarde la question, c'est le bordel.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, mais arrêtez. Évidemment, poser des questions pour le de foot, pour une bonne femme, c'est des questions pièges.
Ah bah voilà. Hein,
c'est comme si moi, vous me demandez de vous citer les meilleures salles de fitness. Hein. On lui demande d'être maire de Paris, pas de remplacer Daniel Riolo.
François Villeroy de Gallo était mon invité ce matin. Bruno Le Maire, vous souhaitiez réagir à cette interview. Bonjour.
Bonjour, Mme Malherbe. J'ai envie de vous dire félicitations.
Ah bon ?
C'est très beau ce que vous avez fait. Oui. Ce matin, d'offrir son micro même aux plus démunis. J'étais très touché en écoutant ce monsieur sans le sou.
Bon, il est pas sans le sou, c'est François Villeroy de Gallo. Il est à la tête de la Banque de France.
Oui, c'est ce que je dis, la tête de la Banque de France. Hein, 0 euro, 0 centime. Oh. Hein. Il est même à la tête de moins 3600 milliards. Ça commence à faire un beau découvert. Hein. Je comprends ses propos, le pauvre est fauché. Il y a des solutions. Je ne sais pas, moi, jouer de l'accordéon dans le métro. Hein. Bon, c'est vrai que les Français n'auront pas de sous à vous donner, mais les touristes peut-être.
Bon, vous êtes quand même un peu gonflé, monsieur le maire. C'est un peu de votre faute si la Banque de France est dans cet état, non ?
Concerne ma faute. Attendez, moi je suis venu pour aider, hein, madame, ne pensez pas. Hein, on est là pour avancer, pour chercher des solutions, par dire c'est la faute à machin ou la faute à truc. Et ça m'arrange, en plus de pas le dire. Hein. Mais j'assume, madame, droit dans les yeux, j'ai dépensé. Mais bon, c'était quand même lui le chef des banquiers. Hein. Quand en face de vous, vous avez un banquier qui vous autorise un découvert de moins de 3000 milliards, bah, vous faites plaisir, on n'est pas con non plus.
Hein. Nouvelle révélation aussi dans l'affaire Jeffrey Epstein hier, où on a appris que le nom de Franck Ribéry était cité 7 fois. Un faux témoignage selon son entourage. Didier Deschamps, vous avez été son entraîneur.
Oui, bon... Écoutez, je connais bien Franck Ribéry. Non, je peux vous garantir qu'il n'a rien à voir dans toute cette affaire. Je l'imagine pas un instant solliciter des prostituées mineures, puisqu'il est déjà bien trop occupé avec les prostituées majeures.
Il est innocent.
Oh, innocent, ça fait aucun doute. Vous savez, pour arriver sur l'île de Jeffrey Epstein, il aurait fallu que Franck sache lire un mail, qu'il comprenne comment y répondre, qu'il se rende à un rendez-vous sans se tromper, et qu'il prenne un avion tout seul. Non, non, ça tient pas la route un instant, l'île d'Epstein. Non, non, Franck s'y recrute, ça n'ira jamais plus loin que sur le bon coin.
Charles nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des Grandes Gueules. Quel est le programme, Alain ?
Bonjour Apolline. Aujourd'hui dans les Grandes Gueules, nous parlerons d'Alex Pretty, cet homme abattu dans le Minnesota par la police américaine avec Willy. Willy qui vient justement de passer son permis de chasse et qui en plus connaît très bien l'Amérique puisqu'il est lui-même passionné de musique country. Et puis nous reviendrons également sur les wagons sans enfants avec Jean-Jérôme qui est bien placé pour en parler puisqu'il est passionné de trains électrique. Et il adore y jouer tout seul dans le calme pendant que justement ses enfants ne sont pas là et qu'ils sont à l'école.
Ah oui,
alors, on en parlait avec Gabriel Attal. Faut-il interdire les réseaux sociaux moins de 15 ans? Mais ce sera intéressant d'entendre le témoignage de Sylviane qui ne comprend pas que ce sujet soit mis à l'honneur puisqu'elle habite la Creuse et qu'il n'y a ni internet ni jeunes. Voilà, ce matin encore, les meilleurs experts sont dans les GG.
Merci Nicolas. Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, c'est les GG avec Alain Marchal. Bonjour Alain, quel est le programme?
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Retrouvez les GG dans un instant en direct sur RMC et RMC Story. Et surtout, retrouvez les grandes gueules en direct du stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture. Nous sommes au Hall 7. Venez nous voir. Hein. Nous sommes en direct jusqu'à midi. Barbara Lefebvre est avec nous, l'éducateur Abel Boyi. Et Emmanuel Devilliers, les GG au stand de l'Agriculture. À tout de suite.